Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer très très fort pour le roi de gloire? Le Seigneur nous a tant aimés, le Seigneur est d'un amour infini. On ne sait pas d'écrire et il est important de le chanter. L'Éternel nous a tant aimés, avant que même nous ne naissions, avant que même nous soyons sur cette terre, il nous avait déjà aimés. Et c'est toujours merveilleux de le chanter, de le déclarer, de l'exprimer encore chaque jour, au travers des cantiques, au travers des actions, au travers de toute autre chose que nous pouvons faire. L'Éternel aussi, il aime quand nous exprimons notre amour envers lui. Alléluia. Et nous bénissons Dieu encore pour sa grâce qui nous accorde d'être là dans sa présence ce matin, de venir de près de lui, l'adorer, le louer, mais aussi entendre encore ce qu'il a à nous dire, afin que nous soyons affermis, instruits, enseignés, corrigés s'il le faut, pourvu que nous devenions meilleurs et que durant la semaine, que nous ayons un bagage pour affronter comme il se doit tous les défis auxquels nous ferons face par sa grâce et par sa puissance qui agit en nous. Par sa puissance qui agit en nous. Et pendant quelques minutes ce matin, nous allons partager sur un thème qui est intitulé « La joie du salut en Jésus-Christ ». Vous pouvez m'aider juste à regarder votre voisin de gauche et droite et dites-lui « La joie du salut en Jésus-Christ ». La joie du salut en Jésus-Christ. Amen. Rapidement, nous allons lire un passage des Écritures, Ésaïe chapitre 9, le verset 4 à 5. Ésaïe chapitre 9, le verset 4 à 5. La Bible déclare « Car toutes chaussures qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. » Verset 5 « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Je répète encore le verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Dieu notre Père, merci pour ta présence, merci pour ta grâce et ta faveur au milieu de nous. Merci parce que tu nous as tant aimés. Tu as tout mis en œuvre, Éternel, pour que nous devenions tes enfants. Nous le sommes par ta grâce et non par nos œuvres. Nous le sommes par ta miséricorde et non par notre propre effort. Et nous te rendons gloire et honneur. Seigneur, je prie que ta parole qui s'est séparée, Seigneur, l'âme et l'esprit, laisse que ta parole nous montre le chemin à suivre ce matin. Je prie que ta parole, Éternel, soit cette lampe à nos pieds et cette lumière sur nos sentiers, afin que nous marchions dans ta lumière et que nous sachions où est-ce que nous devrions mettre le pas et comment nous devons marcher dans ces mondes corrompus. Bénis la vie de chacun de nous ce matin et glorifie ton Saint-Nom au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Parlons de la joie du salut en Jésus-Christ. Nous allons juste parler pendant quelques minutes de qu'est-ce qui est à la base de cette joie en fait. On va parler de quelles sont les choses qui font que nous avons une joie ou que nous devons nous réjouir du fait que nous sommes sauvés, du fait que nous avons le salut en Jésus-Christ. Mais avant de parler un peu du salut et de cette joie, premièrement, je parlerai d'abord de ce qui nous empêche ou de ce qui pourrait nous empêcher de jouir pleinement de cette joie-là du salut en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui ferait comme obstacle pour nous et qui fera c'est que malgré que nous avons le salut, mais on a l'impression qu'on ne se réjouit pas. On a l'impression que malgré que nous sommes sauvés, il n'y a pas cette joie. Il y a des personnes, malgré qu'ils soient sauvés, vous regardez leur vie, il n'y a aucune joie dedans. Alors avant de toucher un peu sur la joie du salut, on va commencer d'abord par exprimer qu'est-ce qui touche ou qu'est-ce qui empêche à ce que nous puissions jouir pleinement de ces saluts, de cette joie. Après, on va parler de la joie et je crois, si le temps permettra aussi, on parlera un peu de comment garder cette joie et maintenir cette joie. Amen. Alors ce message ce matin s'adresse à quatre catégories de personnes, quatre types de personnes. Première catégorie de personnes, ce sont des personnes qui sont sauvées et qui sont fervents, si je dois le dire. C'est-à-dire des personnes, depuis qu'ils sont sauvés, ils continuent à avancer et à croître dans le Seigneur. Des personnes qui, après avoir donné leur vie en Jésus-Christ, cet amour-là, ce premier amour qu'ils ont eu dans leur cœur pour le Seigneur, ils continuent à les maintenir et ils continuent à garder, à continuer à avancer comme il se doit avec le Seigneur. Et la deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui sont sauvées, mais à cause des circonstances de la vie et de certaines difficultés qui sont arrivées en chemin, Ils se sont comme refroidis en cours de route. Ils avaient commencé enflammés, zélés pour le Seigneur, assoiffés de connaître Dieu. Mais les circonstances sont venues, les difficultés de la vie, les soucis de la vie sont venus, les soucis du siècle présent sont venus et ont étouffé le zèle et ils se sont refroidis en cours de chemin. La troisième catégorie de personnes à qui s'adresse ce message, ce sont des personnes qui ils vivent dans le péché, mais quelque chose dans leur cœur fait qu'ils n'aiment pas ça. Des gens de personnes qui voudraient bien être libérées d'une certaine manière de vivre, mais ils ne savent pas comment le faire. Il leur arrive de pécher, il leur arrive de tomber, de faire le mal, mais après ils ont une culpabilité qui les envahit, mais ils se sentent comme enchaînés ou comme liés par quelque chose. Même quand ils essaient d'avancer, d'affronter la chose, ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas. C'est aussi à ces personnes que s'adresse ce message. Et la quatrième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui vivent dans le péché, malheureusement qui prennent plaisir aussi dans le péché. Quelqu'un qui sait qu'il est dans le péché, mais il n'y a aucune culpabilité. C'est comme si sa conscience était complètement morte. Il peut se réveiller le matin, il ment, mais ça ne le dit rien. Il peut faire sa vie comme il veut, il peut mener sa vie comme il veut, mais il n'y a aucun regret dans son cœur. À cette personne-là aussi, ou à cette catégorie de personnes, ce message aussi leur est adressé. Et à ces quatre catégories de personnes, m'ont permis de poursuivre aussi quatre objectifs qui sont attachés à ces différentes catégories de personnes. Pour la première catégorie de personnes, ce matin, j'aimerais juste les encourager à persévérer. Encourager à continuer encore dans la marche, à ne pas baisser les bras. Même quand ça sera encore plus difficile, à continuer à marcher, à avancer avec le Seigneur. Selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58, Paul exhortant les Corinthiens, il leur dit ceci. Le verset 58, il dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Soyez fermes. Vous avez déjà tenu jusqu'ici, tenez bon encore. À un moment donné, la fin arrivera. Le Seigneur en qui nous avons cru, celui pour qui nous avons donné nos vies, un jour il viendra nous prendre et il nous donnera notre récompense. » L'apôtre Paul dit ceci, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. » Et il dit, « Désormais, la couronne de gloire m'est réservée et le Seigneur, le juste et juge, me les donnera. » Mais il dit, « Mais il ne donnera pas qu'à moi, mais à tous ceux qui auront aimer son avènement. » Alors nous qui aimons l'avènement du Seigneur Jésus, pour lequel nous nous sommes mis à part et nous continuons à persévérer dans la marche avec Dieu, soyons fermes et soyons encore inébranlables. Alléluia. Tout en étant fermes et inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur parce qu'il y a aussi une récompense qui est attachée à cela. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 10, encore l'auteur des Hébreux dit ceci, chapitre 10, le verset 35 à 39, il dit ceci, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Et c'est le verset 39 que j'aime, il dit, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Alléluia. Alors n'abandonnons pas notre espérance. Ça porte une grande assurance, une grande rémunération. Et nous ne faisons pas partie de ceux qui abandonnent en cours de chemin, mais nous gardons notre foi pour sauver notre âme. Amen. Et le deuxième objectif attaché à la deuxième catégorie de personnes, c'est juste pour leur dire aussi, un peu comme la première catégorie, mais juste dire, n'abandonnez pas. La grâce de Dieu est encore disponible. Si vous trébuchez, relevez-vous, repentez-vous, le Seigneur est là, il vous accueillera et vous avancerez. Vous vous êtes refroidi en cours de chemin, mais le parcours n'est pas encore fini. Il n'est pas encore trop tard. Si aujourd'hui vous avez l'impression que c'était fini, il n'est pas encore trop tard. L'Éternel agit encore et sa grâce est encore disponible. Il attend juste que tu reviennes vers lui. Il sait que nous ne sommes pas parfaits. Il sait qu'il nous arrive de tomber, il sait qu'il nous arrivera encore de tomber. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est que lorsque nous tombons, que nous revenons vers lui de tout notre cœur. Hébreux chapitre 10, le verset 22 à 23 le dit bien. Il dit ceci, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » On est tombé, ce n'est pas encore fini. Il faut se relever. Il faut juste crier à l'Éternel. La Bible déclare, lorsque le malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel l'entend et il vient le délivrer de toutes ses détresses. Il prend plaisir à nous relever quand nous tombons, pourvu que nous apprenions à compter sur lui. Alléluia. Pour la troisième catégorie de personnes, je crois que le message est clair. Vous vivez dans le péché, vous avez besoin d'abandonner cela, mais vous ne savez pas comment. Jésus a déjà donné la solution. Il a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est arrivé au milieu de vous. Il n'y a que Jésus qui peut nous délivrer du péché. Il a accepté la croix pour nous sauver. C'est pour nos péchés qu'il a été crucifié. C'est pour notre salut qu'il a accepté la mort. Alors si tu es dans le péché, je t'en supplie, répands-toi. Donne ta vie à Jésus et c'est lui qui réglera tout le reste. Alléluia. Ne perds pas espoir, non. Tant que nous sommes encore ici sur terre, tant que le Seigneur nous permet d'avoir le souffle de vie, s'il t'a permis de vivre encore ce qui n'a pas encore fini avec toi. La Bible dit, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors, tant que tu es vivant, rassure-toi, il y a encore de l'espérance pour toi. Mais seulement la solution, c'est Jésus. Par tes efforts, tu n'y arriveras pas. Il n'y a aucune personne qui peut se sauver par ses propres efforts. Mais il n'y a que Jésus. La Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ainsi, Jean-Baptiste, en le voyant, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans Ésaïe, on nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. C'est Jésus qui nous a été donné pour le salut de nos péchés. Et pour la quatrième catégorie des personnes, je ne sais pas comment le dire, il y a en même temps des sentiments qui sont partagés dans mon cœur, en même temps une compassion, mais en même temps aussi comme une certaine colère, si je dois le dire, parce que ce n'est pas normal de vivre dans le péché et de prendre plaisir à cela. Il y a la compassion, mais soyons sur nos gardes, s'il vous plaît. Jésus dit ceci, il n'y a rien de caché qui ne peut être découvert, ni quelque chose de secret qui ne sera pas mis à jour. Que Satan ne vous trompe pas. S'il vous garde dans les secrets, dans ses mal, il y aura un jour, ça sera découvert. Parce qu'il n'y a rien de caché. Peu importe le temps que ça prendra, ça sera toujours découvert. Alors je nous en supplie, répentons-nous. Alléluia. Ce n'est pas normal de prendre plaisir dans le péché. Ce n'est pas normal. Je ne sais pas comment on se sent à prendre plaisir dans le mal. Il faut que notre conscience soit encore éveillée. Ne laissons pas l'ennemi nous aveugler par ses mensonges. Arrêtons de venir vers Dieu avec les cœurs éloignés de lui. Il est important de revenir totalement à Dieu. Il a tout fait. Il a tout mis en œuvre pour que nous soyons sauvés. Alors, arrêtons de vouloir vivre selon nous et surtout encore prendre plaisir à ses mal. Il n'y a rien de caché qui ne peut être découvert. Alléluia. Amen, amen. Alors rapidement, je vais juste parler, je crois, de deux ou trois choses qui nous empêchent de vivre ou de jouir de cette joie du salut en Jésus-Christ. Et si je dois résumer, en fait, ça d'abord, c'est ce qui nous empêche, la seule chose ou la chose principale qui nous empêche de jouir du salut en Jésus-Christ, c'est la vie que nous menons chaque jour. Quel genre de vie nous menons quand nous sortons de l'église? Qu'est-ce que nous sommes quand nous quittons ces quatre murs? Qu'est-ce que nous sommes quand nous entrons au travail toute la semaine? Qu'est-ce que nous sommes quand nous arrivons en famille? Qu'est-ce que nous sommes quand nous sommes dans la société au milieu de ces personnes qui sont perdues? Sommes-nous encore la lumière du monde ou alors notre lumière se limite juste dans le temple? Il y a des personnes, quand ils sont là, vous avez l'impression qu'ils dorment au ciel et ils ne viennent que faire la visite sur la terre. Tellement que vous avez l'impression qu'ils sont saints, tu te dis apparemment celui-ci, sa demeure c'est au ciel. Il vient juste le dimanche sur la terre nous visiter et puis après le culte, il repart au ciel. Mais en réalité, ce n'est pas juste une certaine apparence que nous devons donner. Quelle est la vie que nous menons chaque jour au quotidien? La vie chrétienne, ce n'est pas ici quand nous sommes à l'église, non. C'est là, à l'extérieur, là où il y a plein de ténèbres. Nous ne sommes pas la lumière de l'église, nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas la lumière du temple ou bien de la paroisse, nous sommes la lumière du monde. C'est là-bas, à l'extérieur, qu'on a besoin de voir notre lumière. L'une des choses qui brise et qui empêche les gens de jouir de la joie du salut, c'est premièrement l'hypocrisie. C'est vraiment l'hypocrisie. Nous sommes remplis de personnes qui sont tellement hypocrites. Et s'il y avait une université où on apprend à être hypocrite, je crois qu'il y aurait plusieurs personnes qui auront déjà des doctorats en aujourd'hui. Il y aurait des personnes qui ont des doctorats en hypocrisie. Quelqu'un peut te sourire, il va rire. Dès que tu tournes le dos, il change le visage, tu te demandes, qu'est-ce qui se passe? Comme je l'ai dit, il y a des personnes, quand ils viennent à l'église, ils sont là, costume, cravate, très saint. comme si Dieu avait déjà mis une demeure spéciale pour eux au ciel, malgré la chair qu'ils ont. Et ils dorment chaque jour au ciel, mais le dimanche, ils descendent pour venir participer au culte et après, ils repartent. On a tellement soigné l'apparence extérieure, mais nos cœurs sont complètement faux. On travaille chaque jour à « il faut que l'on paraisse bien ». Il faut que l'on paraisse bien devant les hommes. Il faut que les gens nous voient que nous aussi, nous venons à l'église. Mais le cœur complètement éloigné de Dieu. Arrêtons de marcher dans l'hypocrisie. Pourtant, Jésus aussi l'avait prévenu. La Bible nous l'a dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes deviendront des hypocrites. Les gens seront ceci, cela. Malheureusement, ces personnes sont tellement dans l'église, mais ce sont ces mêmes personnes qui sont les premiers à critiquer ce que les hommes de Dieu font. Nous sommes le premier. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous allons... Apparemment, on a jamais créé une association des hypocrites et des critiques. Des gens qui prennent plaisir à s'asseoir et à commencer à critiquer. Vous voyez l'autre jour, là, d'ailleurs, regardez d'abord comment le pasteur s'était habillé. Est-ce que vraiment, Moutonnez va la vie? Regardez comment il est en train de parler devant les gens. Est-ce que vraiment, vraiment, pasteur, il y en a un Zamasikus à tout comprendre? Est-ce que vous pensez qu'en parlant entre vous, vous aiderez le pasteur? Venez le voir s'il y a quelque chose qu'il a fait de mal. Est-ce que c'est en parlant derrière son dos que vous l'aidez? Nullement. La Bible dit, si tu vois ton frère dans le mal, va le voir et dis-le. Pas va parler à ton voisin de ce que l'autre a fait. Tu ne l'aideras pas. Arrêtons d'être hypocrites. Il y a des personnes qui viennent à l'église pas pour chercher Dieu. Ils viennent juste chercher des nouveaux dossiers. Ils sont là au lieu de suivre tout ce qui se passe. Ils regardent gauche-droite. Qu'est-ce que j'aurai encore comme dossier pour commencer à parler au courant de la semaine? Il y a des personnes qui même se permettent d'être hypocrites aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, que les diables ne nous trompent pas. On peut être hypocrite devant les hommes. On ne peut rien cacher à Dieu. Parce qu'ils sont dans les profondeurs de nos cœurs. Tu peux soigner ton apparence comme tu veux, mais tant que ton cœur est faux, Dieu le sait. On ne peut pas être hypocrite devant Dieu. On ne peut être hypocrite que devant les hommes parce que lui, il voit tout et il connaît tout. Il y a des personnes, tellement que l'hypocrisie a grandi, ils ont commencé à travailler sur l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Quand ils sont à l'église, quand vous l'entendez prier, c'est comme si quelqu'un, il était allé dans une école biblique de la prière. Donc lui, s'est spécialisé à comment prier. Mais quand vous sortez à l'extérieur, vous voyez ce que la personne fait. On se demande, qu'est-ce qui se passe? Quand on est là, on va crier, on va chanter, on va sauter. Mais quand on sort à l'extérieur, qu'est-ce qui sort de nos bouches? Qu'est-ce qui sort de nos bouches? Nos bouches sont pleines de poisons mortels. Il y a des gens, quand ils te parlent... Tu risques de faire une année, tu as encore des blessures en toi. Ça ne cesse pas. Il y a des personnes, un seul mot suffit pour gâcher toute ta journée. Mais ce sont ces mêmes personnes, quand on vient à l'église, ils nous saluent avec beaucoup de joie. D'autres partent même plus loin. Pourquoi nous marchons dans l'hypocrisie? Arrêtons d'être hypocrites, soyons vrais devant Dieu. Parce qu'en réalité, le dernier jugement, ça ne sera pas devant le pasteur ni devant les serviteurs de Dieu. Ça sera devant Dieu lui-même. Et ces jours-là, tu auras une salle de cinéma, on te met l'écran devant toi, on voit toute ta vie. Et malheureusement, en ces moments-là, il n'y aura pas de retour en arrière. Le mal sera déjà fait. Alors, pendant que nous sommes sur cette terre, c'est ici qu'il faut arranger les choses. Arrêtons de marcher dans l'hypocrisie. Arrêtons de venir montrer à tout le monde ici à l'église que nous sommes saints, que nous aimons Dieu, alors que nous n'aimons pas Dieu. S'il y a une chose que Dieu déteste aussi dans ce monde et dans les hommes, c'est qu'il dit, « Ce peuple est mon or des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Il y a des choses, il y a ça que Dieu déteste comme jamais. Que de nos cœurs, nous disons, « Seigneur, Seigneur, je te bénis, mais dans nos cœurs, nous ne faisons aucun cas de lui. » Que de nos bouches, nous témoignons comme sa grandeur, sa puissance, mais dans nos cœurs, nous ne laissons pas agir. Arrêtons ça. Et la deuxième des choses pour gagner du temps, c'est l'égoïsme. Il y a des gens qui apprennent à manipuler les autres pourvu qu'ils gagnent un intérêt dedans. Les gens sont devenus tellement égoïstes. Tant qu'il n'a pas son intérêt dedans, il ne fera rien. Et certains partent même plus loin jusqu'à chercher à détruire la vie des autres pourvu qu'ils soient meilleurs. Certains partent plus loin, ils mettent en danger la vie des autres pourvu qu'eux soient meilleurs. Et ils pensent des fois que c'est en mettant des offrandes à l'église que Dieu va couvrir ce qu'ils sont en train de faire. On est rempli d'égoïsme, on ne voit que nous en toutes choses. Tant que moi je ne suis pas dedans, rien ne peut se faire. On met en danger la vie des gens autour de nous. On part jusqu'à même à sacrifier les gens juste parce que nous voulons avoir un intérêt. Et après, nous pensons que le fait de venir offrir, le fait de demander au pasteur de prier pour nous, ça va tout arranger. Ça ne va rien arranger. Au contraire, ça va encore plus exciter la colère de Dieu contre vous. Pourquoi nous sommes si égoïstes? Est-ce qu'il faudrait que la vie de l'autre soit détruite pour que nous soyons bien? Est-ce que ce n'est pas possible que nous puissions avancer tous ensemble? Est-ce que ce n'est pas possible qu'ensemble nous soyons bénis, que nous avancions entre avec le Seigneur? Pourquoi il faudrait que les autres soient écrasés pour que nous puissions bien nous sentir? Pourquoi nous voulons nourrir notre ego à chaque instant? Chaque jour, nous voulons juste que notre ego soit nourri. Il faut que nous prenions de la place. Il faut que nous devenions presque indispensables. Et des fois même, quand on vient offrir à Dieu des offrandes, ça vient, je ne sais de quels endroits, et on pense que ça va couvrir, que Dieu va nous faire grâce parce qu'on donne beaucoup à l'église. On part dire au pasteur, « Pasteur, prie pour moi. » Et des fois même, on donne des offrandes, mais toujours dans le but de manifester notre égoïsme. Bien-aimés dans le Seigneur, nos œuvres ne peuvent jamais enlever le péché en nous. C'est la grâce de Dieu et il faut se repentir afin que cette grâce agisse dans nos vies. Il faut confesser son péché. Il faut abandonner ses mal et retourner à Dieu de tout son cœur. Il n'y a que ça qui apporte le changement. Vous pouvez faire toute autre œuvre. Tant que vous ne vous êtes pas repenti sincèrement, vous perdez votre temps. Et après, on sera là, on va prier, on va adorer Dieu, mais les cœurs sont éloignés de Dieu. Mais qu'est-ce que nous venons faire chaque dimanche à l'église si nos cœurs ne se tournent pas totalement vers le Seigneur? Qu'est-ce que nous faisons faire chaque dimanche? Mieux vaut rester à la maison, suivre un film sur Netflix ou bien dormir, la semaine a été chargée, que de venir perdre son temps à l'église. Parce que tu peux venir ici étant hypocrite, étant égoïste, tu perds tout ton temps. Alléluia. Je veux lire juste deux passages par rapport à ces points et repasser rapidement. Le premier, c'est dans Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 20, verset 1. Bon, jusqu'au 33e verset, mais on peut sauter certains versets. Matthieu chapitre 23, on va commencer au premier verset et on va un peu sauter juste pour prendre le verset 13. Jésus dit ceci. Alors, Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Des fois, certains viennent même en retard, mais on a déjà gardé leur place là-bas. Ils doivent s'asseoir là-bas. Mais ils disent, mais ne font pas. Le verset 13, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence des longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, pharisiens, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la Géhenne deux fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Verset 23, on va sauter, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses, la justice, la miséricorde, la fidélité, et puis les autres viennent après. Il continue, conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait les chameaux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat et qu'au dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Et le verset 33, il dit, serpent, race de vipères, Comment échapperez-vous au châtiment de la Géhenne? Comment? Si vous continuez à marcher dans l'hypocrisie, comment? Si vous continuez à répandre des sangs innocents, comment vous échapperez au jugement? Qui nous a appris que lorsque nous venons faire des actions à Dieu, des œuvres devant le Seigneur, nous fuyons la colère de Dieu? Aussi longtemps que nous serons hypocrites, aussi longtemps que nous ne veillons pas à l'état de notre cœur, peu importe ce que nous ferons sur cette terre, nous ne fuirons jamais la colère de Dieu. Au contraire, nous continuerons à exciter davantage la colère de Dieu contre nous. Veillons à notre cœur, veillons à la manière dont nous vivons. Le Seigneur est monté à la croix pour nous sauver. Arrêtons de mépriser l'œuvre de la croix. Arrêtons de fouler aux pieds ses grands saluts. Nous avons été sauvés à un grand prix. Ce n'était pas un animal qu'on a sacrifié, c'était le Fils de Dieu lui-même qui est descendu à apporter la chair. La Bible dit qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée le fait d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé. Jésus dit lui-même, personne ne prend ma vie, je donne ma vie moi-même, personne ne me ravit ça. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu forcer Jésus, il a décidé de donner sa vie pour que nous qui sommes perdus, nous soyons sauvés. Aujourd'hui, la grâce est disponible, mais il y aura un moment, la justice de Dieu va parler. Il arrivera un moment où la grâce va disparaître. C'est la justice de Dieu qui sera maintenant à l'œuvre. Aujourd'hui, la grâce de Dieu permet encore que la justice de Dieu, il se calme un peu, il s'apaise, mais il arrivera un moment où la grâce sera remise dans le coffre et maintenant sa justice va complètement se manifester. Et là, il n'y a personne qui va échapper. Nous voulons voir le Seigneur agir, mais nous ne voulons pas nous donner à lui. Nous voulons voir le Seigneur agir, mais nos vies sont éloignées de lui. Nos cœurs sont complètement détournés de lui, remplis d'hypocrisie. Nous méditons le mal des autres. Il y a même des gens qui viennent à l'église en méditant le mal des autres. Ils veulent que les autres soient dans les malheurs. Et ils sont même prêts à tout faire. Certains partent même jusqu'à toucher à ceux qu'il ne faut pas toucher. Certains partent ouvrir leur cœur à des esprits méchants, pourvu que les autres soient dans le mal. Pourquoi nous allons jusqu'à ces niveaux? Est-ce qu'il faut que les gens pleurent pour que nous soyons heureux? Comment le malheur de l'autre peut faire notre bonheur? Et après, nous voulons que Dieu agisse dans cette église, nous voulons que le Seigneur se manifeste. Comment va-t-il se manifester alors que nous qui lui demandons de nous manifester, nous sommes pleins d'hypocrisie? Nous sommes pleins de méchanceté dans notre cœur. Comment échapperez-vous au jugement à venir? Comment échapperez-vous au jugement à venir? Le deuxième passage, rapidement pour finir, Ésaïe chapitre 59. Ésaïe chapitre 59, on va commencer aussi au premier verset. On va aller jusqu'au même au 10e ou 15e verset. Ésaïe chapitre 59, le verset premier, la Bible dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Je n'ai même pas de commentaire à faire, je crois que c'est très clair. « Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. » Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent les œufs des basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leur œuf mère, et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre les sangs innocents. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Les ravages et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt des délivrances est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit, au milieu de l'abondance nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là, le salut. Et il est loin de nous, car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous, et nous connaissons nos crimes. La main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille, mais ce sont nos crimes et nos péchés. Alors si nous voulons que la main de l'Éternel agisse, il n'y a pas deux, trois, quatre mots, un seul mot ou bien une seule phrase. Répandons-nous. Alléluia. Répandons-nous. Et lorsque nous nous répandons, c'est alors que l'Éternel agit avec toute sa puissance. Lorsque Jésus a commencé à enseigner, il n'a pas commencé à d'abord à dire toute autre chose. Il a commencé, répentez-vous. Quand Jean-Baptiste est allé au désert, il n'y avait pas autre message. Arrangez vos vies, préparez le chemin du Seigneur. Quand les autres venaient, il leur dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Il a été tué juste parce qu'il a dit à quelqu'un de se repentir qu'il ne lui était pas permis de prendre la femme de son frère. C'est pour ça qu'on l'a décapité. Alors nous prenons plaisir au mal. Soyons prudents, parce qu'il arrivera un moment, nous ne pourrons plus échapper à la colère de Dieu. Amen. Pour finir, qu'est-ce que cette joie du salut, ou comment je peux exprimer la joie du salut? Je pense que c'est juste par un cantique. Ça va résumer tout ce que j'aurais à dire. Alléluia. Je crois que c'est un cantique que nous connaissons très bien. Et je pense que nous allons le chanter ensemble pendant juste quelques secondes. Et ça sera ça, la joie du salut. Alléluia.
Atu ongoza kwa neema na natu.
Est-ce qu'on peut refaire encore mokozi wetu?
Mokozi wetu atupa furadu nia atu ongoza atu ongoza kwa neema na natu. Tazama, tazama yuko. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, tazama. Yuko pamo. Chana sine. Aitai. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Allons-y,
ni ve ma cou, visu.
Mbinguni, mbinguni, atutaona.
mbinguni. Tusisumbukiwe tena
na tusisumbuki tena chakula wala nyumba, maana vyote twavipata kwa neema yake. Njiani, njiani yote atuongozai, chukua mizigo yetu. Aleluya, aleluya, aleluya.
Encore une fois. Ikiwa vema,
ikiwa vema, kuchini kutegemea Yesu.
Furaha, furaha
gani uko juu
dernière fois, tout aïona de tout notre cœur. Pendant que la mélodie est en train de jouer, juste pendant 15 secondes, est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que nos voix peuvent s'élever et parler à Dieu? Voilà ce qui nous attend puisque nous sommes sauvés. Voilà tout ce qui est notre partage puisque Jésus nous a sauvés. Sur cette terre, il prend soin de nous. Sur cette terre, il nous comble de sa présence. Sur cette terre, il nous comble de sa grâce. Et là au ciel, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de grincements de dents, il n'y aura plus de larmes et la joie sera éternelle. Nous verrons sa gloire. Quelle joie que de le voir face à face. Quelle joie que d'être éclairé de sa gloire. Quelle joie que d'être dans une gloire qui ne se finit jamais. C'est ça notre joie. C'est ça la joie de notre salut. Alors dis juste merci à Dieu. Si tu sens dans ton cœur que tu dois te repentir, confesser un mal, fais-le. Pourvu que tu ne passes pas à côté de cette joie. Pourvu que tu ne perdes pas cette joie. Oh Jésus, fais-nous grâce. Jésus, fais-nous grâce. Jésus, fais-nous grâce.
ta grâce seule nous suffit, ta grâce seule nous suffit. Ta grâce seule nous suffit. Ta grâce seule nous suffit, Jésus. Je vais inviter le révérend Festo, il va prier pour nous et va nous recommander à la grâce de Dieu.
Seigneur, nous avons la joie de vivre ton salut. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce qui est toujours disponible. Merci Seigneur pour ta protection, toujours disponible pour chacun de nous. Nous voulons Seigneur expérimenter la joie qui vient de toi. Nous voulons Seigneur expérimenter la paix qui vient de toi. Éradique en chacun de nous Seigneur l'hypocrisie, l'égoïsme, car nous avons besoin Seigneur que tu viennes diriger nos cœurs, diriger nos pas. Seigneur, tu sais et tu connais les cœurs de chacun de nous. Merci pour ce message interpellatif. Nous prions, Seigneur, que tu visites chacun de nous, que tu visites chacun de nous, que tu visites les cœurs de chacun de nous, afin que chacun d'entre nous, Seigneur, soit à mesure de faire l'introspection de sa vie, Seigneur. Pour ceux-là qui ne t'ont pas encore donné leur vie, ceux qui vivent dans l'hypocrisie, Seigneur, tu les connais, car rien ne peut être caché devant ta face. Seigneur, donne cette grâce à chacun de nous. Bénis-nous, Seigneur, sois loué à jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen.